Bonjour, Idietto Novaidia, c'est une SIC ou SKIC, je ne sais pas comment vous dites, du 93. Donc je suis intéressée par votre définition du bien-être, ça pourrait être. Mais moi, ma question, c'est, vous avez parlé d'enquête participative, notamment Villeneuve. Enfin, nous, on avait vu, par exemple, hier, dans notre itinéraire, qu'il y avait pas mal d'habitants qui avaient commencé à en avoir marre d'être tout le temps enquêtés sur tout. Mais on est quand même toujours en train d'essayer de trouver des réponses pour impliquer les citoyens. Donc comment vous faites concrètement pour faire ces fameuses enquêtes participatives?
Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois ce qu'on appelle l'enquête, et on ne qualifie pas de participatif l'enquête, qui est une enquête quantitative, quand bien même ce soit du déclaratif, effectivement, auprès des personnes. Et quand bien même, en fait, l'enquête, elle a été construite au travers d'un test en vis-à-vis. C'est-à-dire que pendant une année, avec une collègue chercheuse, on a accompagné un groupe d'étudiants pour tester l'enquête en porte-à-porte. Et notamment, un des quartiers qui avait été choisi, c'était un quartier prioritaire. On avait pris deux quartiers pour tester l'enquête. Et à cette époque-là, alors après, je ne sais pas sur l'évolution aussi de la perception, mais ils avaient été mieux reçus, les étudiants, dans le quartier prioritaire que dans le quartier un peu lambda, moyen, qu'on avait sélectionné pour voir les différentiels de passation. Donc ça, c'est le premier volet. Mais c'est vrai que généralement, on ne parle pas d'enquête participative, considérant que, en gros, on ne peut pas assimiler à une opinion publique, et là je pense notamment aux travaux de Blondiot, qui est politiste sur le sujet, ce qui est une expression d'enquête. C'est des expressions individuelles, et du coup le participatif, on le relie plutôt effectivement à un volet politique, à un volet de construction d'opinion, mais qui du coup se fait pas comme ça d'emblée. Alors comment on fait du coup ce deuxième volet-là? On l'a fait de différentes manières. Déjà, à l'époque, on est allé voir tout ce qui s'était fait au niveau des expériences. Il y a eu plusieurs manières de procéder. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui soit au-dessus d'une autre. Moi, enfin, j'ai écrit avec une collègue, par exemple, un article qui recense ces différentes manières dont on peut faire de la participation, justement, dans le cadre de ce type de construction. Et chacune a ses avantages, ses désavantages, en quelque sorte. Mais je pense que l'important, c'est surtout d'être lucide sur qu'est-ce que ça implique en termes de choix. Nous, dans notre cas précis, contrairement à d'autres territoires qui étaient un peu plus en mode on part d'une page blanche et on essaie d'impliquer au maximum, et généralement avec un one shot, c'est-à-dire sur une session, on a plutôt cherché à impliquer un petit groupe, mais sur plusieurs temps, considérant que c'était un sujet complexe. Et que si on voulait avoir justement la construction de quelque chose qui ne soit pas que des expressions individuelles ou de l'agrégation de l'expression individuelle, il nous fallait justement le temps de construction du collectif, en fait. Mais du coup, c'est un choix qui est loin d'être neutre parce que forcément, on sensibilise moins. Donc, on a essayé de jouer un peu sur les deux tableaux, du coup. On a à la fois utilisé la méthodologie spirale parce qu'en fait, c'est une méthodologie qui a été passée en plus de 200 villes à l'échelle européenne, qui est assez simple sur qu'est-ce que pour vous le bien-être, qu'est-ce que pour vous le mal-être, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour aller mieux, mais qui est du coup très utile pour poser un diagnostic, mais assez peu pour construire des indicateurs. Qui a plus de difficultés là-dessus, quand bien même certains territoires ont fait quelque chose de très intéressant, je pense notamment ici à Wallonie. Mais du coup, il y avait des acteurs qui étaient intéressés, on s'était dit, on ne va pas aller constituer le groupe participatif sans les acteurs qui sont déjà intéressés, associatifs, conseils de développement, etc. Donc, du coup, c'était de dire comment on arrive à conjuguer. Donc on a fait une phase effectivement de diffusion, de sensibilisation, puis ces temps d'atelier qui ont inclus des personnes qui avaient pu être dans les temps spirales, mais on est allé aussi rechercher des personnes, et on est allé rechercher sur la base de profils. C'est-à-dire qu'on savait que dans l'enquête, il y avait des personnes qu'on n'avait pas. On sait que, par exemple, des personnes qui n'ont pas de papier, qui sont dans une situation de plus grande précarité, ce n'est pas les personnes qu'on arrive à capter via enquête, quand bien même on avait fait, par exemple, sur l'enquête, un ciblage sur certaines lignes téléphoniques. Même avec ça, on n'a pas. Et donc, on sous-estime ces problématiques-là. Par ailleurs, on savait qu'il y avait certaines problématiques qui émergeaient sur certains publics,
par exemple des gens qui vivaient en logement social, etc., qui étaient malades. Et donc on se disait, il faudrait qu'on puisse entendre quelqu'un qui soit dans cette situation-là. Donc on avait sélectionné tout un ensemble de critères géographiques par rapport à ce qui ressortait de l'enquête, et on est allé démarcher. Donc heureusement, on a eu de l'aide qui a été bien précieuse pour faire ça. Mais on a eu des gens qui volontairement ont bien voulu participer à ces ateliers-là, et qui étaient des gens qui, pour une grande partie, n'avaient jamais participé à des ateliers, en fait. Et donc ça a été très intéressant, mais ça a demandé à d'adapter les méthodes. Hein. Notamment, on n'est pas parti parce que nous, on avait écrit un rapport intermédiaire, les chercheurs, sur l'enquête. Donc on n'est pas parti du rapport intermédiaire. Et on est parti de manière décalée là-dessus. On s'est beaucoup inspiré du travail de Viviane Labrie qui a été fait à Québec, notamment dans le réseau Québec sans pauvreté, où elle partait beaucoup du compte. Et donc on est parti de choses comme ça, décalées, de travail en tout petit groupe, parce qu'on sait que les gens sont intimidés par des travails en gros groupe. Donc on a utilisé ce que maintenant on appelle l'intelligence collective, ou en tout cas certaines méthodes, pour conduire ce travail-là. Et nous, les chercheurs, on a apporté des éléments justement qui ressortait de l'enquête, etc., mais de manière ciblée et par rapport aux questions des gens. C'est-à-dire qu'on répondait surtout aux questions des gens et on n'était pas là tout le temps. C'est-à-dire qu'on voulait aussi qu'il y ait une possibilité de révision du processus. Donc ça, c'est vraiment sur la phase construction, stabilisation justement de ces dimensions-là, avec un temps de forum hybride où du coup, il y a une priorité qui est donnée. Enfin, du coup, il y avait eu un atelier citoyen, un atelier professionnel. Quand je dis professionnel, c'est aussi les militants associatifs, etc. Et il devait avoir un atelier élu. Bon, il n'y a pas eu lieu. C'était la veille des élections. On est à peu près dans... Et du coup, on a eu un forum hybride où l'enjeu, c'était pas d'arriver à un consensus, mais c'était d'arriver à une expression des positions en présence, et voire des antagonismes en présence, avec au centre, et du coup comme guide du forum, ce qu'était l'avis des citoyens. Et du coup, il y avait vraiment ici le principe, si je le retraduis dans un langage recherche, un principe de priorité lexicographique, le leximine, aux citoyens par rapport aux professionnels des politiques publiques et aux élus, considérant qu'il y avait de facto une asymétrie déjà sur le poids qu'ils avaient par rapport aux indicateurs existants, et que donc c'était normal qu'on rééquilibre un petit peu de la sorte. Aujourd'hui, on continue ces temps-là d'atelier et du coup, on a tendance à adapter le format. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on rediscute moins des dimensions que dans les dimensions et à partir des seuils. Et du coup, il y a toujours ici une tension entre la stabilisation et l'ouverture au débat. Donc on est en permanence imprimé dans cette tension. J'ai déjà été un peu longue, et donc je ne sais pas si tu veux compléter.
On va prendre plusieurs questions. Quelle question ?
Oui, Pascal Vivier, CRM. Moi, j'ai une amie haute présentation, surtout que, voilà, c'est vrai que la question des indicateurs, alors à la fois ingénieur, géographe, on est réunis autour de cette question parce qu'on aime bien les chiffres, on aime bien les cartes. Mais après, je me méfie du biais. Que, comme on dit, il y a trois types de mensonges, les petits, les gros et les statistiques. Et donc, j'avais deux questions. La question, c'est la question des seuils, parce qu'on voit qu'on est quand même sur quelque chose de très subjectif. Vous avez abordé la question des seuils en disant, bah voilà, justement, c'est très parlant, il y a des gens pour qui... il y a une seule dimension qui est réalisée, deux, trois. Comment vous fixez le fait que la dimension est réalisée ? Est-ce que c'est des seuils que vous essayez d'objectiver très fort, par exemple, dans le temps de travail, c'est au moins passer 2h30 avec ses enfants, moins d'une heure dans les transports ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très subjectif ? Parce que, par exemple, j'ai discuté avec des collègues qui sont dans la santé, qui vivent dans la santé, il y a un consensus maintenant sur la douleur. Vous demandez à quelqu'un comment il a mal de 1 à 10, il vous dit 8, et bien c'est que c'est 8. Et vous n'allez pas chercher à savoir s'il a vraiment eu plus mal qu'un autre ou pas. Enfin, voilà. Donc est-ce que c'est des seuils subjectifs et du coup ça renvoie, est-ce que vous voyez des exigences différentes ? Est-ce que les seuils ne sont pas les mêmes en fonction de certaines typologies ? Est-ce que en faisant le travail, vous voyez ça ? Il y a des gens pour qui le rapport au temps n'est pas le même. Passer une demi-heure avec ses enfants, c'est largement suffisant. D'autres, 4 heures, c'est pas assez suffisant. On peut être tous confrontés à ça. Ça dépend des enfants, vous me direz. Et ma deuxième question... La deuxième question, c'est l'interprétation. Parce que ça, je trouve ça aussi intéressant. Alors, le cas des risques que vous avez évoqués. Et justement, moi, j'avais pas la même interprétation que vous. Et vous me dites, c'est pas beaucoup, et peut-être qu'on n'a pas assez communiqué. Et on peut avoir une autre vision qui est de dire, au contraire, peut-être qu'il y a une vraie culture de risque, que les gens savent, et que somme toute. Parce que la question, c'est êtes-vous préoccupé par ? Et donc, peut-être que les gens savent qu'ils sont inondés tous les ans et ils s'en foutent, quoi. Voilà, c'était un peu mes deux questions. La question des seuils et des interprétations.
Il n'y a pas ça, toujours.
Merci. Une question très courte. Vous avez parlé d'une cohorte de 1000 personnes et que vous aviez renouvelée deux fois. Et donc, vous nous avez restitué l'écart à la moyenne nationale, vous ne nous avez pas restitué l'évolution dans le temps des mêmes critères, ce qui est certainement un outil de gouvernance très utile pour les politiques publiques. Alors, est-ce que vous l'avez fait et qu'est-ce que ça donne?
Allez, la dernière, c'est une question.
Bonjour, Tarek, du réseau des régies de quartier. Donc, entre la première diapo et cette diapo-là, dans quelle mesure vous considérez que ce travail, il doit prendre 10 ans et ça doit être un travail très local, ou que ce que vous avez construit est finalement assez générique et pourrait être mis dans une boîte à outils et donné à une collectivité qui a moins de moyens, qui veut se pencher sur ces questions-là, etc. Voilà, entre le local et le hors-sol.
Bonjour, Sylvie Bouvier, ANCT. Je voulais juste savoir si vous avez 2-3 exemples concrets de connexion de votre travail avec la mise en œuvre des politiques publiques ou le pilotage.
Régine Chauvet, CIE des Pyrénées-Atlantiques. Moi, quelque chose que je ne retrouve pas, c'est la culture. Et voilà, nous, dans le Sud-Ouest, la question identitaire est vraiment très importante et il y a un leitmotiv, c'est vraiment revenir au pays. Et même quelqu'un qui peut-être remplit tous les critères, mais qui est ailleurs en France, peut-être très très mal.
Le Béarn, ça vous gagne.
Alors, sur la question des seuils, c'est plutôt toi qui va répondre. Sur la question des risques là, et de l'interprétation, en fait, c'est là où, effectivement, il y a le croisement avec d'autres données et ce qu'on connaît sur la question des risques. On sait qu'il y a une méconnaissance, une sous-conscientisation de la question du risque, parce que c'est une politique qu'on est à peine en train de développer. Donc, effectivement, on l'interprète comme ça. Parce qu'on a aussi la connaissance de tout ce qu'il y a autour. Après, c'est tout l'enjeu de jusqu'où on remet en débat à chaque fois les interprétations. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé de faire quand même dans des ateliers participatifs. On avait imaginé un dispositif assez marrant dans le cadre de la Biennale des villes en transition, là, où on proposait aux gens des premiers résultats de Fiona, et ensuite on les mettait sur des tables et on disait vous, comment vous les interprétez, ces résultats? Qu'est-ce que vous en dites? Comment ça fait écho avec vos propres vies? Et on avait mis une statisticienne dans la salle, même deux, et ils pouvaient faire appel à un statisticien pour dire tiens, moi j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un croisement entre ça et le genre, l'âge, etc. Donc c'était vraiment cette idée d'ouvrir la boîte noire des indicateurs et de faire une forme d'éducation populaire sur le boulot de statisticien, et c'était plutôt intéressant. Alors après, je ne vous cache pas qu'on n'a pas eu 250 personnes à cet atelier, mais pour la trentaine qui était là, et on l'a renouvelé 3 fois, c'était plutôt intéressant, et on sentait c'était des gens qui n'étaient pas trop loin de l'action publique, mais qui étaient vraiment curieux de comprendre comment ça fonctionne.
Oui, je vais enchaîner sur les seuils. Sur les seuils, alors il y a deux types de seuils en quelque sorte. Il y a pour les indices, et donc par exemple c'est le cas de la santé, de dire en gros quand on est sur l'indice de la santé, quel est le niveau qui est idéal en quelque sorte, c'est le niveau effectivement où les personnes qui sont en mauvaise santé puissent avoir accès aux soins. Et ensuite, il y a un traitement par modalité quand on est sur les profils. C'est-à-dire qu'on fixe une modalité sur les indices, parce qu'on est obligé de comparer par rapport à une modalité. Et quand on est sur les profils, on va avoir plusieurs modalités. Alors, on n'est généralement pas sur des échelles, parce qu'effectivement, les échelles, ça pose question. Là, pas sur des grandes échelles. Quand je dis ça pose question, c'est souvent, on a des échelles de 0 à 10, par exemple, sur la satisfaction à l'égard de la vie. Et c'est beaucoup plus dur, effectivement, d'interpréter ça. De se dire est-ce que si je suis à 7, c'est OK ou pas. Donc la plupart des réponses, des questions subjectives qu'on a posées, les réponses qui sont associées, c'est des réponses qui sont généralement, par exemple, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail, très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas satisfait. Donc il y a quand même vraiment une ligne de partage, peu satisfait, très satisfait, qui permet effectivement de faire les groupes et de dire cette personne déclare qu'effectivement sur ce point-là, elle n'est pas réalisée.
Après, ça ne veut pas dire que des fois, et c'est toute la question de la constitution des groupes, parce qu'en fait, sur les profils, ils ont été construits par nuée dynamique. Et en fait, dans cette construction des profils, on a certains groupes qui peuvent mêler quand même des situations qui peuvent être diverses. D'où l'intérêt ensuite d'un retraitement très fin de chaque groupe. Comme ça, vous l'aurez vu. Il fait peur, mais je vous donne simplement l'explication. En gros, vous avez les 8 dimensions. Là, vous avez l'ensemble de l'échantillon ramené sur 100. En vert, là, vous avez les personnes qui sont complètement réalisées sur tous les indicateurs considérés en fait de cette dimension-là. Donc là, pour le coup, c'est des gens qui disent qu'en gros, ils sont satisfaits de leurs conditions d'emploi, ils sont satisfaits du travail qu'ils font, ce qu'ils gagnent en termes de rémunération, c'est OK, voire ils gagnent trop. Il y en a qui disent ça. Donc c'est 29% de notre échantillon. Et bon, assez peu étonnamment, alors du coup, c'est là que c'est intéressant aussi, on rentre par des questions décalées, est-ce qu'on retrouve les mêmes ? Dans des cas, oui, dans d'autres cas, non, là, on retrouve plutôt les mêmes, donc c'est plutôt des CSP+, hommes, ça a bien confirmé un certain nombre de choses. Ensuite, 59%, c'est ceux qui sont moyennement réalisés, il y a un aspect ou des aspects qui vont bien. Alors dans ce cas-là, ce qui ne va pas bien, c'est effectivement un sentiment d'insatisfaction par rapport à ce que je gagne. Je considère que je ne suis pas justement rémunérée par rapport à ce que je gagne, mais sur mes conditions d'emploi et le travail que je fais, c'est OK. Ça va quand même. Et puis, il y a ceux qui cumulent les difficultés. Là, c'est les 12%. Et donc, on ne présuppose pas, là, vous voyez, affirmation de soi et engagement, ils ne sont pas bien réalisés, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. Hein. Tant le rythme de vie, c'est pareil ici. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de croiser aussi, alors là, la carte, je ne l'avais pas mis, mais Hélène disait, on n'est pas simplement, par exemple, sur le taux d'emploi. On a de la dimension de l'emploi, mais on n'est pas simplement sur le taux d'emploi. Mais effectivement, quand on croise, par exemple, avec les indicateurs classiques, et ça, c'est aussi tout un instrument de débat, on se rend compte qu'il y a un écart. Donc, on s'est amusé, et puis bon, ça a du travail aussi, mais ça a un côté amusant à croiser par rapport aux indicateurs qui sont habituellement utilisés sur la dimension. Est-ce qu'il y a un gap ? Et en fait, sur travail-emploi, sur santé, etc., on se rend compte qu'on a une vision complètement différente de la situation des territoires, puisque, par exemple, dans la métropole, les territoires où il y a des bons niveaux d'emploi, ce n'est pas pour autant des territoires où les gens sont bien dans leur emploi. Alors, on le sait, hein, par exemple, à l'échelle européenne, sur l'Allemagne, etc., mais à l'échelle locale, on reste quand même souvent sur cet indicateur relativement frustre de l'emploi. Alors, du coup, on n'est pas sur une échelle. Et après, comment on sait, comment on intègre le pluralisme ? J'ai retraduit votre question comme ça, mais en gros, comment on sait quel est le bon niveau ? Est-ce que si je fréquente ma famille tous les jours, c'est bien ou pas ? Alors là-dessus, on est en rupture avec les approches par le capital social. Et je me permets de dire que, du coup, on s'est beaucoup distancié du capital social, même si pour identifier l'approche, on peut avoir une tendance à le dire, au sens où on n'est pas justement sur une conception... de ce qui serait la bonne sociabilité. C'est comment on arrive à préserver justement le pluralisme en disant il y a plusieurs manières de se réaliser. Et par rapport à ça, on a des gens, et c'est l'intérêt d'une enquête, parce qu'on peut croiser, donc on peut en déduire des choses. Il y a des gens qui, par exemple, saturent de voir leur famille tous les jours. Alors, pour différentes raisons, parce que c'est des aidants, etc. Il y en a, ça leur convient tout à fait bien, mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire fréquenter plus sa famille, c'est forcément une bonne chose. Ça dépend. Et donc, l'enjeu, c'est bien de faire ressortir cette pluralité-là. C'est bien de prendre en compte cette pluralité-là. Et du coup, je vais rebondir. Et donc, moi, je crois que j'aurais fini de répondre sur ce que je considérais. Ça relevait plutôt de mon champ et je te laisserai la main. Par exemple, on se rend compte que sur les personnes qui vivent en logement social et des personnes qui sont plutôt dans des situations d'ouvriers, d'employés, il y a un rapport aux proximités qui est très marqué par rapport à d'autres... d'autres personnes, au sens où il y a effectivement un travail qui est généralement très localisé, où il y a des réseaux d'entraide sur le territoire. Alors ça vient très largement bousculer hein, les questions de mixité sociale et justement les ANRU, de reconstruction urbaine, etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train de casser les réseaux de solidarité qui existent sur les territoires ? Et donc on voit bien, et c'est par rapport à la question de la culture, qu'il y a effectivement un ancrage très fort. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas la dimension culture en tant que telle, mais on la retrouve en fait via d'autres indicateurs, parce qu'au final, tout l'enjeu par rapport à la base de données qui fait 80 questions, et du coup la base de données d'ensemble, quand on détaille les indicateurs, ça fait 300, enfin c'est quand même... C'est-à-dire comment on rend accessible, et puis ensuite comment on peut aller justement à des niveaux bien, bien plus fins d'analyser. Donc on arrive à le recouper, et après il y a toujours une tension des indicateurs qu'on garde ou pas. Par exemple, on avait intégré plus d'indicateurs sur les aspects culturels dans la première vague d'enquête, et on en a supprimé certains parce que notamment on se rendait compte que ça ne nous apportait pas beaucoup plus d'informations que certains indicateurs qui pouvaient sembler moins cibler les cultures et qu'on n'avait pas. Mais ce qui n'empêche pas que peut-être qu'on les réintégrera sur des sous-échantillonnages ou des explorations particulières. Je laisse la main à Hélène, parce que je toujours fais bavard.
Tu as parlé des évolutions ?
Non.
2012-2017 ? On est, 2012-2018, on est en train de faire ces traitements. Donc, on ne les a pas présentés, mais on pourrait les présenter. Il y a eu un peu une évolution de l'enquête entre les deux. On s'est fait taper sur les doigts par FENA. Mais en fait, nous, on avait un gros enjeu en tant qu'acteur politique de faire en sorte que ça mobilise beaucoup mes collègues des services déplacement, environnement, etc. Donc, entre l'enquête de 2012 et celle de 2017, moi, j'ai fait beaucoup de démarchages dans les services pour leur dire c'est quoi les données qui vous manquent. Vous en avez peut-être 2-3 qui vous intéressent. On a une logique qui est un peu locomotive. On va faire une grosse enquête un peu large. Et puis, par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est que votre question sur est-ce que les gens ont 2 vélos ou un seul, est-ce que... Chez nous, c'est pas 2 voitures, c'est 2 vélos. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez de l'info sur est-ce qu'ils se rendent en montagne ou pas, comment ça on le croise avec nos indicateurs de bien-être pour que petit à petit cette réflexion sur le temps, l'affirmation de soi, etc., ça rentre dans votre manière de penser, de piloter vos politiques publiques. Donc ça répond un peu à la question, c'est une des dimensions pratiques de comment ça rentre dans le pilotage, c'est que petit à petit, on aide, alors je ne sais pas si c'est de l'automatisme, mais en tout cas des réflexes, la possibilité d'intégrer des dimensions pilotage. Ah oui, le périmètre a bougé, c'est vrai. Dans les comparaisons, ce qui n'est pas hyper simple, c'est qu'on a élargi le périmètre métropolitain de 28 à 49 communes entre-temps. Donc toutes les comparaisons ne sont pas simples.
On a trouvé des stratégies.
Voilà, il y a un peu des stratégies pour faire les références. Il y a des choses qu'on compare pas. Mais effectivement, vous voyez que c'est tout l'enjeu de la stabilisation. C'est que pour pouvoir faire des comparaisons, parce que c'est la comparaison dans le temps qui va être la plus intéressante, y compris en termes de mesure d'impact de politique publique, alors avec toute la prudence nécessaire, parce que pour avoir faire de l'évaluation depuis fort longtemps, je sais qu'arriver à faire... regarder des évolutions d'indicateurs et d'arriver à dire c'est grâce à ma politique que celle d'indicateur a bougé. Je sais que ce n'est pas possible, mais néanmoins c'est un outil d'interpellation, de questionnement, d'approfondissement. Sur le côté, c'est un travail de 10 ans, comment ça peut servir à d'autres? Alors on est à fond là-dedans, hein. C'est pour ça qu'on a, entre autres, qu'on avait organisé le forum pour le bien vivre. On est pas mal appelé pour intervenir, on est pas mal sollicité par des CESER, les comités économiques et sociaux environnementaux régionaux, qui ont cette fonction évaluation aujourd'hui et qui nous disent « Tiens, ça nous intéresse votre référentiel d'évaluation, est-ce qu'on peut pas s'appuyer dessus ?» Effectivement, quand on regarde les 8 dimensions, le métropolitain grenoblois n'est pas très différent du français moyen. Peut-être qu'il a moins d'enracinement dans son pays que dans le Il y a plus de mobilité, c'est sûr, mais par contre, oui, les 8 dimensions, elles ont du sens. C'est pareil, c'était un peu le point fort du Forum Bien Vivre, c'est qu'il y a énormément de convergence aussi avec un Bhoutanais ou un Équatorien. Donc là aussi, ça donne une force d'un référentiel un peu partagé. Là où il y a un enjeu de le refaire sien à une échelle locale, c'est qu'on voit bien que cette histoire de convention sociopolitique, ça marche bien aussi quand il y a eu des débats avec les élus, les citoyens, pour se dire ce référentiel, on s'y reconnaît, il a été appliqué ici. Mais par contre, notre questionnaire de 80 questions, il est totalement open source et on le distribue à qui veut. Donc on vous le distribuera pour que vous puissiez voir les enquêtes. Plus il y a des gens qui le réutilisent, qui l'interrogent, qui le complètent, ça, plus on est content. Là, en ce moment, Fiona est dans un... Donc, par exemple, on bosse avec le département de l'Isère, maintenant, qui veut travailler sur... c'est l'île d'Abo, maintenant, hein, je crois. Donc, une commune du Nord-Isère, pour utiliser la même enquête. Donc, on est hyper contents. Alors, ils ne vont pas tout à fait utiliser les mêmes, etc. Il y a un zoom qui a été fait sur les quartiers prioritaires. Alors, pareil, il n'y a pas tout à fait toutes les questions, mais qui sont posées. Donc, il y a aussi de l'infra-territoire. Et il y a un, voilà, il y a un travail en ce moment à Forges, donc c'est la lointaine région parisienne.
Au niveau, il y a eu un travail qui avait été fait sur le Relational Capability Index, l'indicateur de capacité relationnelle, qui était plutôt sur les pays sud à la base et sur l'impact des entreprises sur leur territoire. Ils l'ont réadapté au niveau français, c'est Cécile Renoir notamment, et Gaël Chiraud et Pierre-Jean Coradera. Et en fait, ils se sont dit sur la réadaptation quels sont les indicateurs existants qui pourraient être utiles. Et donc, ils ont réutilisé. Beaucoup de questions d'enquête. Hein. Il y a à peu près 2/3 du questionnaire, c'est une reprise de certaines questions d'IBES, et donc ça donne une base de comparaison. Ils l'ont passé en l'été dernier.
Et donc là, pour ceux d'entre vous qui sont aussi dans des entreprises, c'est les chercheurs dont Fiona parle, ils ont beaucoup bossé sur la question du bien-être au travail. Donc là, c'est intéressant, c'est une autre jonction qui est en train d'être faite, bien-être territorial, bien-être au travail, qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qu'il n'y a pas en commun. Mais voilà, et puis, ce que je disais, je suis beaucoup intervenue auprès d'acteurs de l'ESS, les fédés de centres sociaux, qui se positionnent beaucoup dans comment est-ce que j'arrive à rendre des comptes vis-à-vis de mon financeur, et comment je prouve l'utilité sociale. Ben, c'est pareil, d'avoir ce référentiel de questionnement autour du bien-être, qu'est-ce que j'apporte comme bien-être, c'est intéressant. Sur la connexion avec des éléments concrets de comment ça a transformé le pilotage, il y a, outre ce qu'on a dit tout à l'heure, ces fameuses cartes là où on voit qu'il n'y a pas tant de différence entre le nord et le sud, ou plutôt l'urbain et rural, parce que c'était une grosse question de construction de la métropole. Bah, elles-mêmes, elles ont fabriqué aussi un sentiment d'appartenance à un territoire plus large. On est en 2014-2015, enfin 2015 quand la métropole s'est constituée, il y a eu un certain nombre de communes qui sont allées à reculons parce qu'elles disaient c'est l'ogre métropolitain qui vient nous manger, nous les communes, petites communes rurales, on n'est pas concernés. Ben, en fait, quand on regarde cette carte du bien-être, donc, qui est centrée sur les citoyens et ce qui est bon pour eux, on voit que ben ouais, on est les mêmes, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes aspirations. Alors il y a des choses qui sont un peu différentes, c'est intéressant. Cette diversité des apports, elle est importante, mais on se rend compte que la dimension territoriale, elle est très peu discriminante. Le truc le plus discriminant, c'est les moments de vie. Vous savez, c'est avant d'avoir des enfants, pendant les temps de famille, après la retraite, etc. Ça dit pas mal de... Ça change le rapport au bien-être, mais le territoire, il change assez peu le rapport au bien-être. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, je me dis, il y a un certain nombre de nouvelles manières ou de projets dans la façon de faire les politiques publiques, ce que je disais tout à l'heure, qui mettent l'usager au centre, et bien, qui se nourrissent de ces indicateurs. Je pense à un objet très concret qui est le projet de territoire zéro chômeur de longue durée, que vous connaissez sans doute, mais qui sont ce parti pris de dire on met les gens au chômage en emploi avec des emplois d'utilité sociale. Et bien, en fait, la grille des 8 critères IBES, elle est hyper performante pour regarder le bénéfice qu'apporte un projet comme Territoire Zéro Chômeur. Parce que dans ce système-là, par exemple, les gens, on leur dit pas il faut que vous soyez employé à plein temps. Si vous êtes aidant, vous pouvez travailler que 50% du temps et on va pas aller vous chercher des noix pour ça. Donc voilà, j'intègre la question du rapport au temps et évidemment la question de l'affirmation de soi. Donc c'est super performatif, performant pour aller regarder ce type de projet qui prend bien l'individu de façon globale.
La culture,
mais la culture, ça revient régulièrement en fait. Donc je me dis peut-être dans notre B3, donc on arrive à le remettre plus en avant, la culture à la fois au sens identitaire, mais peut-être aussi au sens pratique artistique, pratique de créativité, où on sent bien que notre questionnaire il est un peu léger là-dessus, mais comme il y a déjà 4 ans.
Après, c'est vrai que c'est...
De façon concrète, il est admis comment.
Alors, il y a par téléphone, donc ça fait partie aussi de nos questions techniques pour l'avenir. Donc, on passe par un appel d'offres avec un prestataire. Les deux fois, ça a été Ipsos, pas de pub, mais voilà, c'est eux qui ont répondu. Ça nous a posé plus de questions la deuxième fois avec le retrait des... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de joindre les gens sur téléphone portable et même sur téléphone tout court. Donc, on a toute une réflexion sur comment utiliser plus Internet, voire avec Grenoble. Grenoble École de Management, là, il y a une, et la chaire Territoire en Transition, l'idée d'avoir un panel citoyen permanent de 1000 personnes qu'on pourra enquêter. Et le choix de GEM, c'est de dire qu'ils répondent à des questions, à des enquêtes de façon payante. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de tester. Et par contre, ce qu'on a réussi à obtenir toutes les deux, c'est que la critérisation de base de ce panel s'appuie sur IBEST, que ce soit pas juste des questions quelle est votre composition familiale, votre mode de déplacement, etc., mais qu'on leur pose toutes ces questions de quelle est votre satisfaction vis-à-vis d'eux. Et du coup, à chaque fois qu'on va réutiliser le panel pour les interroger sur est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire une métropole apaisée où on roule à 30 ou les manières de trier les déchets, ben on pourra refaire la connexion avec ce référentiel. C'est pas encore lancé, donc on va l'avoir, mais en tout cas, ça a été acté en tant que tel. Mais oui, la façon dont on pose des questions, évidemment, ça joue sur la façon dont on répond.
Et comment les élus se sont emparés des résultats? Après, il y a une satisfaction de votre part de la manière dont c'est appréhendé, utilisé et concrétisé?
Je peux pas dire ça. Juste avant le forum Bien Vivre, on est allé le présenter en conférence des maires. Et il y a eu un intérêt à géométrie variable des maires. On sent bien que neutralité du fonctionnaire.
Voilà, donc, certains... tu as parlé de bande passante.
C'est ça,
bande passante aussi. J'ai noté la bande passante.
Certains qui étaient passionnés, qui disaient, mais voilà, en quoi ça me permet de réfléchir mon rapport à mes concitoyens. D'autres qui disaient, la clause de rendez-vous, c'était avant la nouvelle enquête, ce sera le comparatif entre les deux pour qu'on voit si on a contribué au bien-être. On sent bien qu'en fait, on n'a pas encore fait la présentation complète de l'enquête 2018 et on fera avec les nouveaux élus et voilà, ce qu'on espère c'est que effectivement ça va susciter leur intérêt. Les élus qui sont les plus intéressés, c'est ceux qui ont la sensibilité environnementale, parce qu'en fait pour eux il y avait ce gros point aveugle sur les questions éco-comportement, etc., où là on leur apporte de la donnée, mais c'est pas si net que ça.
Il y a un travail avec les CCAS aussi qui ont d'autres approches à travers notamment l'analyse des données sociaux. Oui. Est-ce qu'il y a des croisements qui sont faits?
Il y a eu une exploitation complémentaire qui a été faite par la collègue qui s'occupe de l'analyse des besoins sociaux, parce que, pareil, dans les éléments un peu aveugles en général de la statistique, il y a sur quoi les gens se privent quand ils sont en difficulté. Et ça fait partie des questions IBEST. Donc on a pu aller chercher, faire des zooms sur ces questions-là. Et toujours pareil, le recroiser avec est-ce que ceux qui font se privent plutôt sur les vacances, est-ce que par ailleurs, j'en sais rien, ils vont en montagne ou pas, de proximité, non, alors du coup, voilà. Ça permet aussi, nous on utilise beaucoup l'observation, dans notre façon de présenter l'observation, on utilise beaucoup des quiz. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens, quand on leur présente un résultat d'observation, ils disent « oui, je le savais, c'est évident ». Et en fait, quand on fait parce qu'en fait, on a toujours une espèce de fond d'articles qu'on a lu, et on se dit « oui, évidemment ». Et en fait, si je vous dis exactement le contraire, peut-être qu'on dira « oui, évidemment, je le savais ». Du coup, l'idée, c'est de poser une question, et on les fait bosser avec des AVET, là. Donc, on leur dit « qu'est-ce que vous pensez qu'est la bonne réponse ?» Et en essayant d'avoir de travailler sur les représentations. Et à partir de ces représentations, quand je présente les quiz, je dis toujours, je suis hyper contente quand vous vous trompez, parce que du coup, vous allez mieux retenir la réponse. Et donc, notamment sur les indicateurs de bien-être, ça permet soit de conforter des intuitions, de se dire, oui, en fait, c'est prouvé, c'est conforté, parce que les chiffres ne prouvent pas tout, mais c'est conforté par la donnée, soit au contraire, c'est une représentation fausse, donc il faut déconnecter cet automatisme, parce qu'en fait, l'observation, c'est là où c'est compliqué pour moi de répondre à votre question de est-ce que ça sert directement, c'est qu'en fait, on voit bien que l'observation, la connaissance, c'est ce bruit de fond du cerveau qu'on va mobiliser au moment où il faut prendre une décision. Et pour nous, l'enjeu, c'est que dans le bruit fond de cerveau, ce soit la bonne information qui arrive et pas les représentations que j'ai vaguement. Donc, faut qu'on outille, on y revient régulièrement. On essaye beaucoup de bosser sur la mise en forme, les affichages, les tweets, je sais pas quoi, mais pour que...
Alors, allez-y, moi. Enfin, c'est quand vous voulez manger, vous dites que vous voulez manger. Sinon, vous avez l'heure là.
J'avais rapidement... Vous avez dit à la fin, donc pardon, Cécile de RTE, que le territoire finalement changeait assez peu le rapport au bien-être. Moi, ça m'interpelle un petit peu avec la crise que nous avons connue sociale des Gilets jaunes, qui est quand même une crise où les études que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait quand même un vrai rapport entre cette crise et les territoires, justement, où est-ce que les gens habitaient. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez interrogé, mais notamment sur démocratie, sur l'accès aux services publics, etc. Donc, je suis un peu étonnée que vous disiez que ce rapport au territoire ne changeait pas le rapport au bien-être.
Alors, je vais un tout petit peu le nuancer, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas le même territoire entre 2012 et 2018. Sur 2012, on est essentiellement sur du périurbain-urbain. Et la conclusion d'Hélène, mais du coup nos conclusions de 2012 sont généralement plus ancrées que les suivantes, est tout à fait bonne. Il n'y a quasiment rien sur lequel ça se distingue, sauf sur quelques éléments du choix du cadre de vie. Après, sur l'enquête 2018, l'intérêt de l'élargissement, parce que du coup c'est passé de 25 communes à 49 communes, donc on a et la plupart des communes intégrées sont des communes qui sont sur des territoires qui sont des territoires ruraux. Donc là on a un comparatif qu'on n'avait pas du tout précédemment, et donc c'est vrai que la conclusion ici elle est un plus nuancée. Alors on n'a pas une territorialisation massif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les indicateurs qui sont corrélés, associés au territoire, mais pour autant, on se rend compte qu'il y a effectivement un différentiel plus marqué entre, on va dire, le rural et l'urbain, périurbain, sur un certain nombre de dimensions liées aux revenus, aux liens sociaux et liées encore aux attentes vis-à-vis du territoire. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça pose la question aussi de réponses différenciées, puisque les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ils pourraient avoir des réponses qui ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, là-dessus, après, c'est vrai que c'est aussi à manier avec prudence, parce que du coup, sur les territoires, on a deux types d'approches. On a une approche au centre, peu dense, dense, et une donc, qui renvoie ruraux-urbains, mais c'est l'agence d'urbanisme qui résonne avec ces catégories-là, et une approche strate et une approche par secteur qui regroupe par zone géographique. Et on n'a pas forcément les mêmes conclusions en fonction de l'entrée territoriale par strate, c'est-à-dire urbain, dense, peu dense, etc., que par secteur qui est plutôt par regroupement géographique. Donc c'est vrai qu'après, pour avoir une réponse beaucoup plus nuancée, il faudrait que je vous donne le détail de chacune des analyses, parce qu'il y a des cas où c'est plus lié au secteur, il y a des cas où c'est plus lié effectivement à est-ce que je suis en zone rurale ou en zone vraiment urbaine, quoi.
Et juste un petit complément pour que mes propos soient bien entendus en tant que tels, c'est que je ne dis pas, dans l'absolu, il n'y a pas le lien entre le bien-être et le territoire. Je dis, sur le territoire de l'agglomération grenobloise, effectivement, plutôt à 28, la question du territoire n'était pas du tout la principale discriminante. Et parce qu'on a, de fait, un fonctionnement en système territorial plutôt urbain. Et donc, avec tous les gens qui sont sur le périmètre métropolitain, ils ont un fonctionnement urbain lié, ils travaillent au même endroit, ils sortent au même endroit, etc. C'est pas du tout... Effectivement, la crise des Gilets jaunes a plutôt touché des territoires plus éloignés des grandes métropoles et où il y avait une vraie question sur le service public. Donc, c'est-à-dire, sur le territoire métropolitain, nous, on l'a aussi entendu avec cet enjeu de... ça a du sens, ce que disait Martin tout à l'heure, de faire territoire tous ensemble. Nos ressemblances sont plus fortes que nos différences.
Ben ça, c'est sûr. Il y a plus de dimensions qui sont déconnectées que liées. Mais on trouve plus de liens sur 2018 que sur 2012.
Avant de vous passer la parole, je voudrais rectifier une chose. Il n'y a pas de territoire ruraux dans la métropole, je peux vous le dire. Parce que les 49 communes rattrapent à peine l'unité urbaine, la dépassent à certains endroits, et sont toutes comprises dans l'aire urbaine. Donc attention à nos glissements sémantiques tranquilles. Effectivement, on finit par refaire une telle reconnaissance de la ruralité, puisque vous n'échappez à personne, puisque nous venons dans un grand pays rural, bien sûr, qu'on finit par dire des choses, on se comprend, on parle de ruralité pour parler de territoires de faible densité, qui sont en montagne, ceux qu'on a travaillé. Alors quand on est parti en bus et qu'on est passé au Sapet, voilà le type de commune qui va se dire rurale. Sauf que le Sapet, c'est truffé de cas de sucre qui ont pu se payer la montagne là-haut et qui sont dans un cadre verdoyant. Mais enfin, si on appelle ça la ruralité, il faut aller chercher mon grand-père pour lui en parler. Parce qu'il a plus d'idées. Enfin, mon grand-père n'était pas en rural d'ailleurs. En fait. Donc, moi, cette question territoriale, j'aimerais bien qu'on la retravaille cet après-midi, y compris si on doit un peu s'empailler sur l'interprétation territoriale du mouvement des Gilets jaunes, parce que je continue à défier quiconque, et ayant lui avait le bras, se sentir mal dans une France qui va bien, de ramener la lecture du mouvement social en question à une lecture territoriale. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord et que ce serait bien qu'on ait là une session entière.